Il est tout juste 20h sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour décrypter toute l'actualité sportive locale et internationale. On va avoir une grosse page locale dans cette émission puisqu'on va revenir sur tous les débuts de saison qui attendent nos clubs angevins. Et puis on va aussi débriefer ce premier match du SCO pour leur retour en Ligue 1 contre Lens. Et puis en fin d'émission, on reviendra tranquillement sur le reste de l'actualité. Avec moi aujourd'hui, à ma droite, Florian qui est là. Salut Florian, comment ça va ?
Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, ça va très bien. Ça va très bien. Retour de vacances, donc forcément, bien bientôt la reprise du boulot aussi. Mais écoute, voilà, on a vu du beau football, la reprise de la Ligue 1 aussi également ce week-end. Ouais. On va en parler dans l'émission.
T'es allé au stade ce week-end ?
Exactement. Il y avait Angers-Lens, donc forcément, on va faire un tour quand même à Raymond Coppa.
Et t'étais pour Lens ou pour Angers?
Non.
Sois honnête auprès de nos auditeurs.
Ah, je suis complètement honnête. J'étais Lensois à 100%. J'étais un peu déçu parce qu'il y avait l'arrêté préfectoral qui interdisait d'avoir des maillots Lensois, ou bon, chose qui n'a pas forcément été respectée dans le stade. Ah, okay. J'aurais dû le mettre. Je n'ai pas osé. J'ai voulu respecter la loi. Et au final, j'avais un peu de déception de ne pas avoir mis les couleurs lensoises dans le stade. Bon. Mais bonne ambiance quand même. Il y avait des supporters angevins autour de nous, enfin, autour de moi, et, en fait, autour de ma famille. Donc, mais ça s'est très bien passé.
Ok, très bien. Un autre chroniqueur, pardon, qui est allé aussi à ce match, c'est Faustin. Salut Faustin, comment ça va ?
Salut Alex, salut tout le monde. Bah, ça va toujours très bien. J'ai sûrement un peu moins vibré devant le match que Florian, comme j'étais pour le SCO, moi, mais c'était quand même sympa.
Ça change de la Ligue 2.
Voilà, ça fait plaisir.
L'année dernière, t'avais commencé par un petit Laval Angers.
Ouais, en déplacement.
C'était fini par une défaite.
Une défaite en zéro, pareil.
Donc tu commences très bien.
Voilà. Et on peut rappeler aux auditeurs qu'il avait fini aussi avec le match de la montée et il avait fini avec une blessure.
Mais oui, c'est surtout cette fameuse blessure. Tu t'en es remis depuis, j'espère.
Oui, ça va, mon genou est en forme.
C'est vrai que je ne compte plus les blessures de Faustin, c'est pour ça. Également avec nous, Mathéo. Salut Mathéo, comment ça va ?
Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Eh bien écoute, ça va très bien. Retour du football, on ne peut que être heureux.
Ouais.
Et surtout qu'il y a matière à débattre. Donc très très cool petit week-end.
T'as kiffé ton premier week-end de Ligue 1 ?
Eh bien c'était mitigé, on va dire.
Okay. J'allais dire génial, mais oui. Finalement je me suis rappelé d'un petit dimanche soir pas très sympa.
Pas ouf. Non, franchement, on a vibré, mais dans le mauvais sens. Donc
c'était pas des bonnes émotions.
Non.
Bon, on va justement dresser le sommaire de cette émission avec tout d'abord le débrief du match du SCO, ce qu'il faut retenir de cette rencontre face au RC Lens. On évoquera aussi un petit peu le mercato du SCO puisqu'il n'est pas fini. On parlera aussi du cas Loïs Diony qui va vraisemblablement quitter le club d'ici la dernière semaine de mercato qui nous attend. Ensuite, on fera un point sur les mercato de tous les clubs angevins, donc le SCO en bas, l'UFAB, l'Étoile Angers Basket et même les Ducs. Hein, je vous ferai tout un bilan autour des arrivées et des départs autour des clubs angevins et il y a eu pas mal de mouvements. Et puis en international, on reviendra sur la Ligue 1. Florian, tu nous prépares une petite chronique sur les droits TV avec donc la nouvelle chaîne DAZN. Mmh. Et puis après, on parlera basket avec Faustin. Tu évoqueras notamment le transfert de Yabusele pressenti du côté de la NBA. Dans quel club ?
C'est aux Sixers, Philadelphie.
Sixers, pour rejoindre notamment Joel Embiid.
Exactement.
Un autre Français. Pas international français, mais un autre Français. Et puis, quelques mots également, rapidement, de cyclisme, mais aussi de tennis, puisque vous le savez, l'actualité post-JO est toujours un petit peu convalescente avant ces Jeux paralympiques qui nous attendent dans un peu plus d'une semaine, le 28 août précisément. On va commencer donc par le débrief de ce match du SCO, cette première journée de Ligue 1 à Raymond Coppa, opposition donc contre Lens, perdu 1-0 avec ce très beau but, il faut le reconnaître, de Wesley Saïd qui s'est fait tout simplement plaisir hein, dans la surface angevine. J'ai envie de me tourner vers ceux qui ont pu assister à la rencontre depuis le stades, Faustin et Florian. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? On va plutôt prendre le prisme angevin. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance angevine? Faustin, pour commencer.
J'ai pas été hyper séduit, j'avoue. Déjà, quand j'ai vu la compo, il y avait certaines nouvelles têtes. J'attendais de voir ce que ça allait donner. J'ai pas été convaincu par l'ensemble du match, par aussi certains joueurs. Et par contre, le but m'a régalé, même si j'étais pour le SCO. Mais bref, voilà. Et on a manqué d'agressivité. Je trouve que c'est un truc qui revient, qui revenait les saisons précédentes. J'ai une action en tête. Je crois que c'était peut-être Sheriff qui était dans la surface, un ballon qui lui tombe quasiment dans les pieds et il se bat même pas pour le récupérer, alors qu'il est dans la surface pour marquer un but, quoi. S'il l'a, c'est un tapine. Et ouais, c'est ce qui a pêché, je trouve, dans notre performance.
Florian, tu partages un peu son avis?
Oui, complètement. Après, je les ai trouvés. J'ai trouvé qu'ils ont fait une meilleure deuxième. Alors après, Lens aussi avait baissé le pied en deuxième mi-temps. Ouais. Donc clairement, Angers avait mis un peu plus d'impact, d'intensité dans les duels. Ce qui a un peu plus dérangé les Lensois. Donc s'il y a une mi-temps à retenir, c'est la deuxième. Maintenant, sur la première, tu peux perdre 2-0 puisqu'il y a ce double poteau en plus derrière avec soit Sotoka ou soit Saïd derrière. C'est sûr que c'est pas le même match en seconde. Donc t'as la chance de revenir à 1-0 à la mi-temps et donc du coup, je trouve qu'il y avait peut-être mieux à faire dans cette deuxième mi-temps. Les Lensois ont donné des opportunités aux Angevins. Ils se sont fait peur. Ça reste aussi une première journée, donc une des équipes à pouvoir se roder. Mais il faut clairement un numéro 9 du côté du SCO. Je pense qu'on fera le lien dans quelques instants avec le dossier Loïs Diony. Mais clairement, je pense que si Angers veut pouvoir espérer se maintenir en Ligue 1, il va falloir clairement un numéro 9. Parce qu'il y a des choses, il y a quand même des bonnes choses. Abdelli fait plutôt une bonne deuxième mi-temps et fait plutôt une bonne rencontre. En même temps, c'est ton meilleur joueur.
Voilà, attention à pas le perdre aussi d'ici la fin du mercato.
Ah, clairement, c'est sûr que ça reste le joueur avec la plus grosse valeur dans le club. Hein, c'est ton meilleur joueur et c'était ton meilleur joueur dimanche. Maintenant, c'est vrai qu'il était un peu seul offensivement parlant, quoi.
Et justement au niveau de ce numéro 9, donc on l'a dit, hein, c'est la première, enfin ce sera l'une des recrues attendues, hein, sur la fin du mercato. Pour revenir sur Loïs Diony, qui je rappelle a été notre meilleur buteur l'année dernière. Alors la fin d'aventure à Angers va plutôt mal se passer, hein, puisque il a séché l'entraînement notamment lundi, donc le lendemain du match, hier, et puis aujourd'hui il a été tout simplement écarté du groupe. Il est clairement poussé vers la sortie par sa direction, lui qui a été notamment aussi hué contre Lens et Saléa, ouais, avec notamment un investissement qui était clairement remis en cause par les supporters.
Ouais, en tout cas moi de mon côté, après je sais pas du côté de Faustin, ce qu'on était à l'opposé l'un de l'autre sur cette rencontre, en tout cas sur l'une des actions dans les derniers instants de cette rencontre, il y a ce ballon en profondeur que Loïs Diony va pas chercher et donc le stade réagit et le siffle. Maintenant je ne sais pas qui je dois blâmer dans cet épisode-là, parce que du coup si c'est le joueur qui souhaite partir, pourquoi tu le mets sur le terrain? Dans tous les cas, en fait, pourquoi tu mets Loïs Diony sur le terrain? Parce que si c'est le joueur qui souhaite partir, c'est sa volonté. Et donc, du coup, bah, forcément, derrière, tu t'exposes à ce genre de comportement. Mais si c'est le club qui souhaite le faire partir, comment veux-tu garder un joueur et l'investir pour le début de cette saison? Donc, je ne comprends pas trop. Alors après, c'est sûr, Loïs Diony reste un joueur professionnel. Mais j'ai pas forcément envie de lui jeter la pierre entièrement parce que je trouve que les deux parties sont pas forcément, dans le positif ou vraiment dans le bon état d'esprit. Le numéro 9, t'en as, t'as Loïs Diony, t'as Ibrahim Agnan. Maintenant, tu les mets pas sur le terrain parce que tu veux les faire partir, donc peut-être que t'as une idée de recrutement derrière la tête.
Ouais.
Mais on est le 20 août, donc il reste 11 jours pour le mercato. Il va falloir se dépêcher parce que en plus tu joues donc Lille ce week-end. C'est pas forcément une équipe qui sera à ta portée. Techniquement, ouais, on va dire, les Lillois normalement sont au-dessus. Donc ça veut dire qu'au bout de deux journées, t'es à zéro, potentiellement zéro parce que tu joues Nice le 1er septembre. Attention, tu démarres ta saison en te mettant une balle dans le pied.
Mathéo, je me tourne vers toi. Je sais pas si t'as pu voir le match.
Si, carrément, si j'ai pu le voir.
T'as pu le voir. Qu'est-ce que t'en as pensé? Et si jamais ça te vient à la tête, est-ce que t'as une idée numéro 9 un peu au profil parfait pour le SCO?
Écoute, déjà, j'ai envie de dire que c'était encourageant comme match. Moi, j'ai vu une équipe qui arrivait à combiner dans les petits espaces avec des petites passes rapides, notamment au milieu de terrain. Ouais. Le gros problème pour moi du SCO, c'est l'entrée dans la surface de réparation, que ce soit au niveau défensif ou offensif. En fait, le rideau angevin était assez dur à passer, je trouve, mais une fois qu'il était passé, c'était la porte ouverte à n'importe quelle action. On l'a vu, tout le monde était perdu, même Fofana sur les deux poteaux, notamment en première période. Tu prends un but au bout de 50 secondes de jeu, il est hors jeu, mais ça reste quand même une action forte. Donc voilà, il y a des côtés négatifs, il y a des côtés aussi positifs. Et justement, moi j'aimerais rebondir sur cette affaire entre guillemets Loïs Diony. Je pense pas que Loïs Diony soit le profil qu'il faut au SCO maintenant. Il faut plus qu'un neuf, il faut quelqu'un qui décroche, qui te permette de rentrer facilement dans cette surface de réparation là. Abdelli par exemple, on voit qu'il tente des choses, il est souvent à l'extérieur de la surface. Il aimerait peut-être y rentrer, il a en tout cas la technique pour, et c'est peut-être l'un des rares angevins qu'il a d'ailleurs. Mais il a personne à qui s'accrocher. Donc il faut plus que ça. Diony, c'est pas un attaquant de soutien, il peut l'être, mais c'est pas son point fort entre guillemets. Lui, dès qu'il est dans la surface, il va aller directement droit au but entre guillemets. Donc voilà, donc je pense que j'ai pas de profil en tête parce que c'est compliqué. Le SCO a pas un budget énorme, si ce n'est pas de budget du tout. Donc ça reste compliqué. Maintenant, on a vu que par exemple des clubs comme Saint-Étienne étaient sur Andy Delors.
Ouais.
Bon, pourquoi pas, ça peut être une possibilité, il est libre de tout contrat. Compliqué de l'attirer pour nous parce que je pense qu'on n'a pas non plus le même budget que Saint-Etienne. Saint-Etienne, ça reste un club qui a...
Ni le même projet.
Oui, ni le même projet, c'est sûr. Donc c'est plus compliqué, mais ça reste aussi des possibilités. Quand on voit les joueurs qu'on a pris à Bordeaux, par exemple, je pense à Biumla. Biumla, c'est un jeune, voilà, c'est un talent, c'est un vrai talent. Peut-être même générationnel, on verra ce qu'il nous en dit. Mais en tout cas, je trouve que Diony, c'est pas la perte qu'on nous dit, en tout cas. Voilà, moi pour moi c'est pas non plus une mauvaise chose, sachant qu'aujourd'hui peut-être que déjà quand on est redescendu, il avait pas forcément le niveau pour la Ligue 1, je dirais. Ouais. Donc aujourd'hui, sachant qu'il est plus vieux, voilà.
Compliqué évidemment.
Il y avait pas ton chouchou aussi ce week-end. Hein. Il y avait pas Kalumba.
Mais Kalumba, il est blessé. C'est fait les croisés.
C'est mal, c'est dommage parce que du coup c'est ce genre de joueur qui aurait pu te faire du bien et te créer des voilà comme
t'avais tu dis. Kalumba qui est blessé, mais t'as aussi Alevina, la recrue Clermont qui est blessé pour je crois les deux premiers matchs
et qui lui n'est pas un mauvais joueur en plus un petit peu t'apporter quelque chose sur le côté.
C'est même polyvalent.
Ouais, exactement.
Et puis bah pour rester sur le neuf polyvalent, soit on l'a maintenant, est-ce qu'il a le niveau pour la Ligue 1? On sait pas, c'est le Paul.
Ouais. Ah oui, le Paul, ça. Il peut. Ça m'étonnait de pas le voir jouer.
D'ailleurs, bah, moi aussi, parce que très franchement, il a le profil.
Les journalistes, notamment, je crois, de West France s'interrogeaient justement sur pourquoi, Esteban Le Paul n'est pas rentré en jeu ou n'a pas été titulaire. C'est assez flou pour l'instant.
La gestion de son cas, elle est assez hasardeuse.
Ouais, peut-être un départ. On n'en sait rien, mais c'est vraiment dommage.
Attaquants, c'est compliqué pour
lui. Non, mais là, oui, c'est partir 3-9.
Bah ouais, t'as intérêt de recruter, quoi. Bah ouais, parce que, franchement, je vais pas, pareil, Shérif, c'est son premier match de Ligue 1, donc on va pas, tu vois, je vais pas lui tirer dessus ou quoi que ce soit, mais.
Je trouvais ça encourageant quand même. Après, il a été mis à un poste qui est pas le sien. Voilà, c'est toujours plus compliqué de débuter.
C'est pas facile, mais le problème, c'est que tu démarres encore une fois ton championnat où tu joues Lens, Lille et Nice. Ouais. Donc trois équipes qui peuvent potentiellement jouer le top 7, top 8. On voit large un peu pour être sûr. Mais alors oui, d'entrée de jeu, tu sais que ça va être compliqué face à ces équipes-là de prendre des points. Mais si tu ne proposes rien ou t'as pas ton effectif au complet ou du moins les joueurs que tu veux voir ou emmener sur la saison, bah du coup tu commences mal. Alors après c'est que la première journée, on va pas se dire waouh, le SCO va redescendre en Ligue 2, mais il faut que tu donnes les moyens d'atteindre ton objectif de maintien.
Surtout que l'année dernière, la force de ce SCO là, c'était qu'il avait été plutôt bien structuré au niveau des postes, etc. Et là, c'est vrai que là c'est difficile, surtout que Alexandre Dujeu avait réussi à consolider un groupe. Si là t'as déjà des comportements qui sont un petit peu bizarres et t'as des joueurs qui sont sur le départ, donc et tu dois gérer tout ça, je pense que ça doit pas être facile pour lui. Donc voilà, on verra évidemment ce qui se passe pour le SCO. Le prochain match sera donc, tu le disais Florian, à Lille, un déplacement donc à Pierre-Mauroy, donc à 19h samedi. Et voilà. Et le mercato du coup n'est pas terminé puisque selon les informations notamment de Mohamed Toubachter, Youssef Attal a été proposé au SCO. Alors pour l'instant, il n'y a pas forcément de vrai accord. Et le SCO quand même réfléchit à cette piste en sachant qu'on a déjà un latéral droit avec donc le l'haïtien Karlens Arcus qui est arrivé en provenance des Pays-Bas, l'haïtien. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match sur le côté droit? Il remplace Yann Valéry qui est parti du côté de Huddersfield pour 470 000 euros.
Écoute, pour moi, il a pas fait un match incroyable. Je le trouve un peu transparent. Après, je vais pas. Voilà, c'est son premier match aussi également. Mais bon, et pourtant, il n'avait pas un client en face de lui, face à Lens. Hein. Il avait Joaner Chavez, qui est son pendant, mais côté gauche, côté lensois, qui fait un bon centre, qui amène la tête sur le poteau. Mais bon, c'était pas Machado en face. C'était pas le titulaire. Donc, il y avait moyen de faire quelque chose. Chavez, en plus, à Lens, est nouveau. Donc, j'ai pas trouvé son match très cohérent. Par contre, la piste Attal, elle peut être cohérente parce que du coup, on sait c'est le genre de joueur qu'apprécie Saïd Chaban.
Oui.
Ça reste une piste nord-africaine, donc je sais qu'il apprécie genre de piste. C'est un très bon joueur, faut pas quand même se le cacher. C'est Fatal, en dehors de blessures, je veux te dire, c'est quand même quelqu'un qui carbure et qui est très bon. Maintenant, le voir arriver au SCO, ça serait une surprise. Quel salaire et tout. Mais franchement, ça pourrait apporter quelque chose. C'est de l'expérience en Ligue 1. Moi, franchement, je serais vraiment très content pour le SCO de le voir arriver.
Mathéo, pareil, ce serait une bonne piste.
Ce serait génial. Je pense que c'est un joueur qui est largement au-dessus du niveau du SCO. Assez surtout quand on sait que Alexandre Dujeu aime sa petite défense à 3. Il a choix, il l'aime beaucoup. Et mettre un petit latéral droit, enfin un piston plutôt du niveau de Youssef Attal qui déjà court très vite, qui est très moderne et puis qui peut jouer. Il a déjà joué attaquant droit aussi. On n'a pas d'attaquant droit, bon bah pourquoi pas. Même si après, il vaut mieux le voir piston. Donc après, ça peut te permettre de recentrer un petit peu ton jeu et d'être dangereux un petit peu dans toutes les positions du terrain. Donc pour moi, c'est pas du tout une mauvaise piste. Au contraire, je pense que ça peut être un des éléments déclencheurs de pourquoi pas un maintien.
C'est ça, avec animer les ailes, ce serait vraiment quelque chose, une piste intéressante à faire pour le SCO. D'ailleurs, au niveau des départs et des arrivées, donc je vais rappeler un petit peu tous les joueurs qui sont arrivés. Notamment, on a évoqué donc Karlens Arcus, mais on a aussi donc Jean-Eudes Aoulou de qui venait de Strasbourg, l'ivoirien. Ensuite, donc on l'a évoqué aussi Jim Alevina, le gabonais en provenance de Clermont, qui connaît bien la Ligue 1. On a aussi eu, je trouve que c'est plutôt intéressant, Aris Belkebla, qui a été pas mauvais du côté de Brest il y a à peu près un an, puisque l'année dernière il était du côté de Ohad Medine, je crois que c'est en Arabie Saoudite, et donc c'est vrai que c'est plutôt une recrue plutôt intéressante pour le SCO qui aime bien justement ces milieux de terrain expérimentés pour animer. Ensuite, tu l'as évoqué aussi, on a deux joueurs de Bordeaux, donc Emmanuel Biumla qui joue plutôt quel poste, Mathéo?
Milieu défensif
et Jacques Ekiome qui je crois est latéral.
Ouais, c'est ça, c'est il a ça. Joué latéral gauche si je dis pas de bêtises contre Lens, il a pas fait un mauvais match d'ailleurs.
OK.
Voilà. On nous a menti, je dirais.
Ah,
okay. Les amis bordelais nous ont menti.
C'est vrai que les bordelais étaient pas très satisfaits hein, de notamment
non,
de
non, non.
De
quand on allait sur les réseaux, c'était assez tranché.
Ils étaient ils sont contents. Non, je pense pas qu'ils soient contents en ce moment.
Non.
Ils auraient aimé garder la N1.
Ouais.
Mais voilà. Donc c'est vrai que bon, le SCO du coup forcément c'est que des joueurs en fin de contrat. Hein. On rappelle aucun achat et une seule vente. Donc on l'a dit avec Yann Valéry et la fin de contrat également pour le Croate que tout le monde avait peut-être un peu oublié, Marin Niakolis, qui a très peu joué du côté du SCO. Et on l'a dit, donc ça fait que seulement deux départs. Et le SCO n'arrive pas forcément à dégraisser. Est-ce que vous voyez à part le numéro 9, est-ce que vous voyez d'autres postes où il faudrait changer quelque chose? Le milieu de terrain commence à être fourni. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs envoyés en prêt, notamment Belkdim a été titulaire, je crois, ce week-end. Est-ce que c'est un joueur qui peut aspirer une place de titulaire?
J'en ai strictement aucune idée. J'ai pas du tout assez vu ce joueur là jouer. Moi, je pense que le poste prioritaire, c'est la défense. C'est assez clair. On a cette, du coup, on disait Alexandre Dujeu aime sa défense à 3. On a une colonne vertébrale qui est un peu cassée. Je dirais pas qu'avoir une défense à 3, Bamba, Utonji et puis Lefort, ça soit du niveau de la Ligue 1. Honnêtement, quand on voit toutes les équipes qu'on va affronter, et puis quand on voit surtout le but qui a été pris, le but de Wesley Saïd, il a le temps. Wesley Saïd, concrètement, il est dans la surface, il a le temps d'armer, il a le temps de frapper, et il aime ça. Mais parce que tous les joueurs aiment ça aussi, les joueurs offensifs aiment ça. Donc Donc voilà, donc je pense que le poste prioritaire, c'est la défense. Le milieu de terrain, les joueurs vont s'habituer. On a eu des recrues intéressantes. Tu as dit Aoulou, par exemple. Il n'a pas fait un bon match. En soi, il a été un peu neutre, mais il faut savoir qu'il n'a pas joué l'année dernière avec Strasbourg. Donc voilà, je pense que le poste prioritaire, c'est la défense.
Et le numéro 9.
Et le numéro 9, exactement. J'allais l'oublier.
Et le numéro 9. C'est, ouais. Ça sera, il faut à Osco un joueur qui met 10 buts, minimum. Ouais. C'est 10 petits buts. De toute façon, voilà, même quand tu te maintiens, tes buteurs, ils ne mettent pas 15, 20 buts. Juste 10 buts. Ouais. Après, autour, tu en auras toujours quelques-uns qui vont mettre 4 ou 5. Donc, ça va rééquilibrer un peu les statistiques. Mais il leur faut ces joueurs-là. Je te rejoins au milieu de terrain. T'as pas besoin de plus. T'as les trois qui ont joué là, donc Appel, Belkedlim et Aoulou. Tu rajoutes Belkebla aussi là-dedans.
Raoulizoa aussi. Et puis ouais. On l'a dit, Biumla, s'il faut faire.
T'as Oulkalet qui est rentré aussi. Qui peut toujours servir. Mais c'est vrai qu'en défense, il leur faut un mec d'expérience, qui connaît un peu les joues de la Ligue 1, ou alors qui a une expérience à l'étranger, je ne sais pas. Mais il leur faut un défenseur et un neuf.
Et au niveau de l'attaque, ça qu'on n'a pas vu El Melali blessé aussi, je crois. Ou...
Oui. Je crois que je l'ai aperçu autour du stade.
Ouais. Et Zinedine Ferrat, pareil.
Ferrat était sur le banc.
Ok.
Il était sur le banc.
Je pensais qu'il était parti, moi.
C'est dommage. J'avoue.
Je crois qu'il était sur le banc, Ferrat. Okay, il semble avoir revu la combo là et il semble qu'il était sur le banc. Après, à prendre avec des pincettes. Mais ça, c'est pareil. C'est un joueur qui a l'expérience de la Ligue 1. Donc, il y a des choses à faire. Si tu rajoutes Youssef Attal là-dedans,
on a une grosse diaspora algérienne.
Hein. Voilà,
c'est positif parce qu'on a des très bons joueurs algériens.
Exactement. Il y a une belle formation en Algérie. Ça reste des très bons joueurs de ballon, même si parfois il faudrait qu'ils le lâchent un peu. mais c'est vrai. Il y avait un très bel article un jour qui avait été fait. Que tous les Algériens voulaient jouer numéro 10, mais ça veut tout et ça veut tout dire et parfois ça veut aussi tout dire que le fait qu'à un moment donné faut qu'ils lâchent leur ballon. C'est des joueurs hyper techniques, mais il faut qu'ils lâchent un peu leur ballon. Mais si tout joue ensemble, ça serait l'idéal et je pense que tu pourrais très y aller à Raymond Kopa. Mais si tout le monde donne des ballons, mais que t'as pas un mec qui te met les buts à la fin, c'est pareil quoi.
Et puis moi je te rejoins, c'est un peu ce truc aussi qui sauve les clubs, qui permet de se maintenir, dans le sens où sur les dernières années, on a vu les clubs qui se maintenaient avaient des gros buteurs. Toulouse avait Dalinga, même à l'époque Clermont avait Mohamed Bayo. Donc voilà, c'est
mais,
quand même...
Mais c'est un petit peu le contre-exemple l'année dernière. Avec,
exactement, avec c'est vrai, il était très très proche et puis il a failli les sauver à lui tout seul. Donc voilà, généralement une équipe qui se maintient à un gros neuf, qui part peut-être derrière, des fois c'est synonyme d'une redescente ou alors faut mieux gérer l'argent que t'as gagné avec. Ça, ce sera le problème de la saison d'après. Ouais. Mais sur cette saison-là, c'est sûr qu'il nous faut un gros neuf.
Ou au moins une défense imperméable, évidemment. Faustin, pour terminer sur le SCO, est-ce que tu es optimiste pour cette saison?
J'ai envie d'être optimiste, c'est dans ma nature d'être optimiste, mais j'ai toujours des doutes vis-à-vis de l'effectif, tout ça. Justement, la défense, moi je trouve que c'est surtout depuis le départ de Vincent Manceau, tous ces anciens.
Romain Thomas, Ismaël Traoré.
Exactement, que notre défense est fragile et qu'on a du mal à la renforcer. Et on l'a encore vu ce week-end. Et j'espère qu'on va réussir à trouver des bons joueurs et j'espère qu'on va réussir à se maintenir aussi.
Ok, très bien. Voilà pour cette page SCO qu'on va refermer. On va donc maintenant évoquer les autres mercato des clubs angevins. On va commencer par le SCO Handball. Le SCO Handball qui va reprendre le championnat donc le 6 septembre contre Besançon. Ils reprendront en compétition officielle le 3 septembre en Coupe de France contre Ivry. Effectif plutôt renouvelé avec notamment les départs de Corentin Boué, Philippe Vucelic, Achraf Safi, Eshmi Belaret, Monir Douiri, Swan Lemarié et Maxence Rizzi. Pour les arrivées, on a Thibaut Valentin en provenance de Nancy, Yvan Corcher en provenance de Cournon d'Auvergne, Thibaut Marmouzès, le gardien qui vient en provenance de Nîmes, Théo Laguiomi en provenance de Dijon, Grégory Cantaillet de Villeurbanne, Chérubin Tabanguet, le Gabonais qui jouait en Grèce l'année prochaine, et enfin Noah Bardou qui jouait à Sarrebourg. On verra si le SCO Handball prétend à ce maintien en Pro League. On rappelle qu'ils ont été sauvés par l'administration avec un budget qui a été présenté et qui a été validé donc par la Pro League, et l'ambition surtout du président Christophe Maniable qui a été donc de constituer un vrai effectif de Pro League avec donc l'ambition de se maintenir. On va passer du côté du basket maintenant. avec l'UFAB 49. Donc la reprise n'est pas encore déterminée, hein. Le calendrier n'est pas tombé. Sachez d'ailleurs que on aura un nouveau nom de ligue. Ce ne sera plus la LFB, la ligue féminine de basket. Ce sera la Boulangère Wonder League.
Wow.
C'est ça vend
ça vend du rêve. Ouais.
Ça vend du rêve. Faut un avis sur ce nom.
Oh, c'est comme la ligue d'un McDonald's, hein, ça.
Exactement. Donc voilà.
Ça rapporte de l'argent.
Exactement. Voilà. Faut se dire ça. Au niveau des départs, l'effectif de l'UFAB a été quand même beaucoup bousculé, beaucoup de très bonnes joueuses qui sont parties, notamment Leila Lacan, on l'a dit, du côté de Basketland, mais aussi Massini Kaba, Nabala Fofana, Isis Arando, Jasmine Bailey, Océane Montpierre, Julie Voichta et la capitaine Kelly Elenga. Faustin, c'est assez énorme en termes de départ. Ensuite, au niveau des arrivées, on aura l'américaine Almerist Alston en provenance de Latte Montpellier, Emmanuel Tahan, la française en provenance de Saint-Amand. Ensuite, on aura une joueuse canadienne, Quinn Urbaniak, Dorn Stoder en provenance de Sanga Milano en Italie. Ensuite, on aura une ancienne de l'UFAB, Anna Ngo Njok, qui est une spécialiste notamment du 3-3, qui vient en provenance de Landerneau. On aura également Oumu Diarissa de la Tronche Mélan, une espagnole avec Laura Mendes de Movistar Estudiantes, et puis Joy Adams, arrivée de dernière minute après le capotage notamment du transfert de Jessica Jackson. Faustin, est-ce que ça va être une année compliquée pour l'UFAB, avec tous ces départs de cadres, ce groupe qui marchait bien, et est-ce que tu as confiance en Aurélie Boulin pour ressouder un nouveau groupe?
Bah ouais, carrément, c'est un truc qu'elle arrive à faire. On l'a vu là quand elle a gagné le championnat d'Europe avec les U16, et clairement l'objectif de l'UFAB, c'est de renouveler l'effectif. Il y a que deux joueuses qui sont restées, il me semble, c'est Marine Dursus et Axel Merceron.
Exactement.
Ce sont deux joueuses très jeunes. Et dans les arrivées, on a quelques joueuses avec de l'expérience, mais il me semble seulement deux ou trois parmi toutes les arrivées. Et sinon, beaucoup de jeunes. Donc, les envies du club, elles sont clairement marquées. C'est de créer des stars. Enfin, des stars, je m'emballe peut-être un peu, mais
former,
créer,
en tout cas,
voilà, ça crée un effectif propre à Angers. Et de peut-être d'exploser dans les prochaines années. Cette saison, l'objectif, ça va toujours être le maintien.
Ouais.
Ça va pas être de viser un top 5 ou quoi que ce soit. Mais dans les saisons à venir, si toutes ces joueuses arrivent à bien évoluer, qu'on arrive à les garder, ça peut être très fort.
C'est vrai que l'UFAB, encore une fois, continue dans sa fibre de la formation ou de la post-formation. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. On va partir maintenant du côté de l'Étoile Angers Basket. Une reprise est prévue, on le rappelle, pour le 13 septembre contre Fougères. Les Angevins qui sont dans la poule A de National 1, puisqu'on rappelle qu'ils n'ont pas voulu rester en Pro B après un potentiel repêchage qui avait été proposé par la Ligue. Ce sera donc la N1 pour le club de l'EAB. On rappelle les départs du coach principal l'année dernière en fin de saison, de Ali Bouziane. On aura aussi le départ de Johan Ratcheville, qu'on avait reçu pas mal de fois dans l'émission à l'époque où on était en partenariat avec l'EAB. Il avait été promu directeur sportif et il quitte donc ce club. L'entraîneur, ce sera John Delay. Il sera accompagné de Corentin Lepan. Au niveau des départs, on a 8 départs et 8 arrivées. Donc voilà, encore une fois, comme un peu pour l'UFAB, seulement deux joueurs, hein, qui vont rester. Notamment, là, il y a peut-être une volonté de choisir des joueurs du même club, puisqu'il y a 3 joueurs qui jouaient à Mulhouse l'année dernière qui vont rejoindre l'EAB, avec Victor Serrano, le pivot espagnol, mais on aura aussi Mondésir et Verag, et 2 joueurs également de Feur. Alors c'est pas la fameuse blague coiffeur, hein, c'est vraiment le nom de la ville, Feur, avec donc Edith Djedjé et Yanis Arat. Et puis enfin, on aura aussi des jeunes joueurs avec Noah Guillaume, qui jouait chez les U21 de Nancy. On aura l'américain Jacoby Ross qui jouait en Bosnie, et on aura également Baptiste Auger de Brest. À noter parmi les départs, ceux de Sean Tanner, de Stéphane Gauthier et de Hugo Mienandi. Voilà, Stéphane Gauthier qui était là depuis assez longtemps, notamment à l'UAB, Faustin.
Ouais, bah, même chose ici, pas pour les mêmes raisons que l'UFAB, clairement. C'est la descente qui a changé les projets du club, il n'y a pas photo. Et j'avoue, je connais très peu les joueurs qui arrivent.
Bien sûr, c'est logique.
Et du coup, j'ai pas trop d'idée de ce que ça va donner, mais J'espère quand même qu'en N1, ils vont réussir à bien se débrouiller, parce qu'il y a un gap, je trouve, entre la N1 et la Pro B quand même. Mais l'autre souci, c'est que le fait de descendre à N1, ça a dissolu les espoirs de l'EAB que je l'ai souvent voir jouer. Il y en a d'ailleurs un qui a rejoint Avrillé. Pour le coup. Mais du coup, le fait de perdre ses espoirs, c'est aussi le fait de moins viser sur l'avenir, parce qu'il y en a plusieurs qui partent du club, ouais, qui restent pas dans l'équipe U21. Et c'est un autre problème, parce que des fois on en voyait qui venait faire un match comme ça pour tester, etc. Et là tu les as plus, et c'est un souci.
Bon, voilà, on verra si le AB est capable de remonter. Ils étaient remontés, je crois, sur la saison 2020-2021.
Ouais, avec arrivé à la radio.
C'est ça, parfait. Tu m'avais porté bonheur avec Sylvain Delorme notamment, qui était ensuite parti du club juste après. On va parler maintenant des Ducs d'Angers avec pas mal de départs, 9 départs et 9 arrivées. Alors je vais pas tous les faire, mais parmi les départs, on retiendra notamment Nikita Sherba, qui était le Russe, l'un des meilleurs joueurs de la Ligue Magnus l'année dernière, et puis Evan Collet, le gardien, qui s'en va également, le Canadien qui quitte le club alors qu'il était également l'un des meilleurs gardiens de cette Ligue Magnus. Au niveau des arrivées, on va notamment retrouver un ancien des Ducs, c'est Jonathan Charbonneau. Il jouait notamment en Slovaquie l'année dernière, et il revient après une saison seulement après son départ. Ce serait intéressant de suivre ça. Et au niveau des gardiens, a priori c'est Matt O'Connor qui va remplacer Evan Collet dans les buts, et puis également deux recrues en provenance de Grenoble, hein, l'un des gros morceaux de ce championnat, avec le Finlandais Jere Ruijanen et Lucien Ono, tous les deux anciens brûleurs de loups de Grenoble. Et puis enfin, rapidement, un petit mot de Cholet Basket. Alors je crois que le mercato n'est pas fini, mais vous dire également que le club va reprendre le 27 septembre à La Rochelle pour la J2. Alors je crois que la J1 était reportée à cause du tournoi de qualification pour la Ligue des Champions, qui aura lieu à Antalya du 17 au 21 septembre. Et pour revenir une dernière fois sur les Ducs d'Angers, donc pareil, la J1 va être reportée. Elle était prévue contre Rouen et elle va être reportée au 20 octobre, puisque je crois que Rouen est qualifié pour l'Europe l'année prochaine. Et puis donc la vraie reprise pour les Ducs d'Angers, ce sera à domicile à l'Ice Park le 17 septembre contre Bordeaux pour la J2. Voilà pour les infos locales. Je sais pas si vous avez d'autres infos à donner.
Si, je peux donner une info. C'est plus Angevin, maintenant c'est ex-Angevin, mais okay. Jeffrey Nadelaide a signé il y a moins d'une heure à la Salernitana, okay, en série B. Voilà.
Très bien. Et d'ailleurs, je crois que on avait parlé d'une rumeur notamment. Angelo Fulgini va jouer un bon rôle à Lens cette saison, je crois.
Bah ouais, exactement. Bah il a été replacé dans l'axe numéro 10. Là, il a joué dimanche après-midi. Beaucoup de rumeurs de transfert sur lui cet été, mais au final l'arrivée de Will Steele va lui faire du bien. Je pense que si Francaise était resté, il aurait peut-être eu un départ possible. Là, avec l'arrivée de Will Steele, Angelo Fulgini a rebattu les cartes et il est présent, il est numéro 10, et je pense que il sera là toute la saison.
Ça peut être intéressant de voir si ça peut relancer sa carrière.
Et puis ça va relancer sa carrière.
Oui. Et puis un dernier mot, puisqu'on parle des anciens Angevins, Mohamed Ali Chou, qui a marqué ce week-end, oui, avec Nice, un très beau
qui
but
a perdu.
De la tête, ouais. Nice qui a perdu 2-1, on en reparlera juste après la pause musicale. On va tout de suite s'écouter JER et son titre Peace, et on se retrouve juste après.
Si on s'aimait grave, j'aurais pas quand il me bat. Demain on tourne la page, même si on n'a pas les mêmes cartes. On criera peace et gardez vos armes. Quand nos ennemis crieront peace, ça sonnera bizarre. Donc on répondra par peace. Faites place aux autres. Écrasez-vous ou faites l'inverse, mais assumez. S'y voit pas le feu de votre âme, éteignez-vous ou étouffez-les avec la fumée. Haut les mains pas pour saluer, défilez vite puis fuyez. Criez sur le chemin, peut-être le prochain sera aiguillé. Moi ils m'ont éclaté les yeux, ceux qui priaient. Peace, gardez vos armes. Quand nos ennemis crieront peace, ça sonnera bizarre. Donc on répondra par peace. Peace, 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 peace.
laisse contestataire. Vos ennemis vont rester à terre. Bagarrer le monde pour bien ou le mal, c'est qu'on fera face à nous-mêmes à terre. Ah merde, je crois que c'est vrai ça. Faire la paix, c'est penser ses plaies. Je pourrais pas te faire un dessin. Si on s'aimait grave, j'aurais pas qu'on qui me batte. Demain on tourne la page, même si on n'a pas les mêmes cartes. On criera peace, mais gardez vos armes. Quand nos ennemis crieront peace, ça sonnera bizarre. Donc on répondra pas peace.
JER et son titre Peace sur Radio G. Vous êtes toujours en compagnie de l'équipe de Génération Sport. Vous nous écoutez sur Radio G depuis le 101.5 FM ou bien sur internet www.radio-g.fr ou bien sur les plateformes d'A+. On est toujours ensemble donc pour évoquer l'actualité sportive internationale. On va maintenant parler de ce premier week-end de Ligue 1, même si on l'a déjà évoqué par le biais du SCO. Je vais vous donner les résultats de cette toute première journée de Ligue 1 2024-2025. Vendredi, le PSG a ouvert le bal en s'imposant 4-1 contre Le Havre. Le lendemain, Marseille s'est offert la première place en s'imposant 5-1 contre Brest. Juste après, c'est Lille qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Reims avec cet accident qui a failli être assez tragique hein, pour Angel Gomez, l'anglais qui s'est fait percuter de plein fouet par Amadou Koné. Ensuite, Monaco s'est imposé 1-0 contre Saint-Etienne. Auxerre a battu Nice 2-1. On l'a dit, donc le SCO a perdu contre Lens. Match nul un partout entre Montpellier et Strasbourg et match nul 0-0 entre Rennes et Toulouse. Et le dimanche soir, il s'est rien passé, Mathéo, je crois.
Non, il n'y a pas eu de match.
Et rien de particulier. Non, effectivement, la victoire de Rennes 3-0 au Roazhon Park contre l'Olympique Lyonnais. Sur cette première journée, messieurs, quelle équipe vous a fait la meilleure impression? Pas Lyon déjà. On parlera peut-être de Lyon après, Mathéo, mais Marseille peut être un candidat intéressant pour concurrencer le PSG ou le PSG est au-dessus.
Bon, le PSG restera au-dessus, je pense.
Ouais.
Parce que même avec une équipe, on en parlait un peu en off tout à l'heure, même avec une équipe assez jeune, je les trouve. Assez serein, même s'ils ont charbonné face au Havre vendredi soir et ça a été dur. Ils ont fait rentrer leur star et leur meilleur joueur en deuxième mi-temps, mais tu vois que même avec une équipe un peu remaniée en première mi-temps, bon, ça fait le taf et ça reste présent. Alors c'est sûr que Marseille a une hype indéfinie avec Dozerbi.
Ouais.
Et avec l'effectif qui sont en train de se construire, maintenant j'attends de voir comment ils vont gérer les joueurs qui sont dans le loft là, qui doivent partir, ouais. Parce que je pense qu'ils ont besoin de finances, parce que ça restera un grand mystère. Je ne comprends pas comment Marseille peut encore recruter autant de joueurs là sur le mercato
à chaque fois,
alors que l'année dernière à la DNCG ils avaient programmé une place dans le top 3 de jouer avec des champions, donc avec des rentrées financières différentes, et là ça passe tranquille, donc tout va bien. Je sais pas ce que fait la DNCG, mais c'est compliqué de me dire que de voir. Alors après, ça recrute, tant mieux pour eux. Ils ont un bel effectif. En tout cas, offensivement, ils ont un bel effectif. Maintenant, j'attends de voir la suite, quoi. Ouais. Parce que Rennes est intéressant. Par contre, Rennes a vendu cet été. Ils ont vendu quand même leur meilleur joueur. Il y a sans doute Brigeau qui va partir aussi en plus, mais. Mais bon, après on va pas parler de ce qui fait mal pour vous, c'est sûr, mais
on en verra après.
Donc voilà. Rennes pour moi a été l'équipe qui m'a le plus surpris. J'attends de voir Marseille face à une autre adversité.
Faustin, est-ce qu'il y a toi, il y a une petite équipe qui agite ta curiosité pour cette année?
Bah une fois de plus, moi je vais aller sur Marseille. Dit pareil la saison dernière, finalement ils m'ont déçu.
Ouais.
Là, j'espère que ça va pas être la même chose, un mercato une fois de plus intéressant. Très intéressant même, et je m'attendais pas à ce qu'ils mettent un tel score à une équipe qui va jouer en Ligue des Champions. Ça me fait par ailleurs un peu peur pour Brest quand ils vont jouer en Ligue des Champions, tout simplement. Mais j'attends de voir ce que ça va donner, si ça va marcher mieux que l'année précédente, et ce que je leur souhaite évidemment, et même si ça va être plus compliqué de regarder les matchs pour des raisons qu'on évoquera après, il me
semble. On les évoquera après avec Florian. Toi, je sais que t'aimes bien la tactique, Matteo. De Zerbi à l'OM, c'est quand même, je pense que c'est peut-être même la meilleure recrue finalement.
Ah, bah, bien sûr, c'est un énorme coup, Roberto De Zerbi à l'OM. Personne ne l'a vu venir. Je pense que moi, on m'aurait dit ça, mais deux jours avant, j'aurais rigolé au nez de la personne qui me l'a dit. Maintenant, bah, c'est fait. Il a réussi à se construire un vrai effectif, surtout ce qui a été hyper intéressant, même pour les supporters marseillais. C'est qu'on a recruté pas mal de Canadiens et qui ont bien performé à la Copa. Donc ils ont pu, au moment du recrutement des joueurs, se faire un avis sur ces joueurs-là et qui, au final, performent très très bien aussi en club. Donc c'est intéressant. J'ai pas envie de parler forcément du cas d'un certain Mason Greenwood parce que ça me fait mal de voir ce genre de personne en Ligue 1. Mais maintenant, intrinsèquement, c'est un joueur qui a des qualités énormes. Il l'a prouvé contre Brest. C'est même trop facile le foot pour lui, surtout en Ligue 1. Donc Roberto De Zerbi, oui, c'est la meilleure recrue du mercato de Ligue 1, assurément. Maintenant, moi, pareil, je me pose la même question que Florian. Il en a bien parlé tout à l'heure, mais je suis même pas sûr qu'une fois au 21e siècle, Marseille a été dans le positif sur un mercato estival. Je sais même pas, parce que à chaque fois, ils achètent beaucoup de joueurs, ils n'en vendent aucun parce qu'ils n'en forment pas beaucoup. Alors après, la masse salariale aussi baisse, et puis on a des rentrées d'argent aussi qui sont plus importantes que dans peut-être n'importe quel club français. Mais là, c'est vrai que tu vois, même là, aujourd'hui, ils sont sur Rowe de Norwich, ils vont encore poser 15 millions sur quelqu'un. Donc ça pose quand même des questions de d'où vient l'argent et de comment on fait pour passer la DNCG à côté.
Surtout que McCourt n'a pas remis au pot.
Ouais.
Donc j'aimerais savoir alors c'est
des si je crois qu'il a remis la main à la poche.
Il a remis la main à la poche.
J'ai pas vu l'info.
Après il y a aussi le fait que parfois tu mises sur dire voilà de la DNCG, tu dis bah je mise sur être deuxième ou premier. Mais le problème c'est
que c'est tous les ans.
Là tu dis ça tous les ans et avant tu pouvais te dire OK, il y aura des rentrées 3 télés. Là, il y en aura plein, il y en aura moins qu'avant. Donc j'ai du mal à comprendre et c'est vrai que je te rejoins sur ils ont pris des profils de joueurs, même d'un point de vue notoriété. C'est vrai que on parlait de Mason Greenwood, ça restera quelque chose de
qui fait tache,
voilà.
Fait plus que tache.
Voilà, c'est ça. Mais bon, après, les supporters marseillais ont l'air satisfaits. Il a mis deux buts ce week-end. Voilà. Après, c'est sûr que d'un point de vue, le joueur est incroyable.
Mais pour moi, il y a une raison pourquoi il est là. C'est ça qu'il faut pas oublier.
C'est l'affaire judiciaire, hein, c'est tout.
Bah oui,
s'il y avait pas eu ça, il serait jamais.
Il serait dans un gros club, il serait toujours à United. Hein,
bien sûr. Bon. Ah ouais, c'était peut-être le plus gros potentiel anglais à l'époque, devant des Saka, devant des Foden. Donc,
il y a une raison pourquoi il a joué à Getafe l'année dernière et pas dans un gros club et qu'il est aujourd'hui à Marseille.
Et tu mises sur une revente.
Getafe qui a des problèmes éthiques aussi.
Voilà,
il faut le dire.
Mais après, la hype, elle est peut-être du côté des, peut-être pas forcément des joueurs, mais du côté des coachs. On parle de De Zerbi à Marseille. T'as toujours Luis Enrique à Paris.
Ouais. Puis c'est la valse des coachs européens et en global aussi. Hein,
et là, t'as Steele à Lens, t'as Hess qui est resté à Nice, qui est parti à Nice, mais t'as toujours Stéphane à Rennes.
T'as Sage.
Qui n'est plus en stage à Lyon, du coup, qui a été.
Nouveau surnom qu'on va débloquer quand on fait des mauvaises perves, je pense.
Pierre Stage.
Un stage d'observation.
Voilà, c'est ça. Le stagiaire.
Exactement. On va justement parler de Lyon. Une défaite qui fait mal, Matteo, 3-0. Avec des erreurs défensives notamment, des recrues qui n'ont pas été notamment au niveau.
Personne n'a été au niveau.
Personne n'a été au niveau.
À part, si, peut-être Péry.
Justement, qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée lyonnaise?
C'était compliqué. Hein. Franchement, j'étais devant mon téléviseur, ça a été quand même un match relativement dur. Il y a des points qui sont quand même... il y a des points positifs. Il y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais Anthony Lopez nous a pas du tout manqué sur cette rencontre, donc Lucas Perry a fait un bon match, honnêtement, franchement, il nous sauve plusieurs fois. Sans Lucas Perry, je pense qu'il y a deux ou trois buts de plus, et c'est vrai que bon, voilà, déjà qu'on en prend trois, s'il y en a deux ou trois de plus,
c'est une vraie claque.
Bonjour la première journée, mais voilà, Mikotadze a fait un match intéressant aussi. Je dirais pas qu'il a fait un bon match, je dirais qu'il a fait un match intéressant, notamment dans la remise.
Il a raté un penalty,
c'est vrai. Il a 95% de passes réussies quand même. Il a fait plus de 27 passes, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un chiffre énorme pour un attaquant. Il est beaucoup redescendu. Son jeu de déviation était vraiment hyper intéressant. Au niveau des problèmes défensifs, ça se règle. Niakate, c'est vrai que par contre l'erreur, elle est super grossière sur le deuxième but. On voit Guiri de notre écran, on voit qu'il arrive. On se dit non, il va pas faire la passe et il fait la passe. Voilà. Donc ça, c'est des erreurs bêtes, mais qui se gomment après. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est le milieu de terrain. Quand tu rencontres une adversité comme celle de Rennes, c'est très compliqué quand même d'avoir un milieu de terrain qui s'entend aussi peu et qui est aussi lent. Sur les contre-attaques, on l'a bien vu, dès que Rennes a le ballon, ils accélèrent, Matic ne suit pas. Cacré, il essaie de faire un pressing, il n'y arrive pas parce que quand il est haut sur le terrain, ça fonctionne pas du tout. Donc derrière, on a déjà deux milieux de terrain en moins parce que en vrai, Matic, je pense qu'il reste que sur la ligne du milieu et puis il bouge plus. Ouais. Et puis Mangala a pas fait un super match non plus, donc voilà. Et puis on voit qu'il regarde toujours dans des voilà, ils ont le regard porté ailleurs à chaque fois dans des ouais, j'ai perdu
des
le
directions.
Mot des directions, c'est exactement ça, des directions opposées à chaque fois, donc c'est difficile de construire des actions et de défendre avec ce genre d'entente pas très cordiale, quoi.
Ouais, c'est surtout voilà beaucoup de mouvements à venir du côté de Lyon, notamment sur
on
sur
l'espère, les départs, mais c'est pas parti pour
il y a beaucoup de départs qui sont souhaités du côté de Lyon. Bon, voilà pour le débrief très rapide de cette première journée de Ligue 1, avec quand même, voilà, c'est toujours intéressant de découvrir. On ressort les nouveaux maillots, on essaie de découvrir des nouvelles têtes pour cette première journée de Ligue 1. Je vais me tourner vers toi, Florian. On va retourner donc sur cette Ligue 1, sur les droits télé de notre beau championnat de France, qui ont été attribués notamment à DAZN en grosse partie cette saison. On sait que ça a fait polémique. Bah écoute, je te laisse la main pour nous expliquer tout ça.
Et si le foot français était en train de vivre le même traumatisme que l'industrie musicale a vécu lors de l'apogée du téléchargement illégal au milieu des années 2000? À vrai dire, on pourrait retirer ce point d'interrogation et l'annoncer avec certitude. Le foot français va mal, et sans une réinvention de sa structure et de ses instances, ce dernier va droit dans le mur. Alors pourquoi ce pessimisme, puisque le championnat a repris ses droits ce week-end avec notamment la Ligue 1 et la Ligue 2? Alors vendredi soir, en ouverture de cette saison, le PSG se déplaçait du côté du Havre et une minorité de personnes sur le territoire ont pu assister au début de DAZN, le nouveau détenteur des droits TV de notre cher championnat. Ce championnat que l'on aime tant et dont on parle chaque semaine, et aujourd'hui d'ailleurs, est cher, puisqu'il faut débourser au minimum 45€ pour en voir l'intégralité, et la facture peut monter si l'on veut regarder également les compétitions européennes de nos clubs français. Alors il y a quelques instants, je vous ai parlé d'une minorité de personnes qui ont pu assister au début de DAZN ou qui ont pu se poser devant la rencontre du PSG. Eh bien, je vous ai menti, puisqu'il y avait de très nombreuses personnes. Alors en donnant ses droits TV à DAZN et BIN, la LFP a fait exploser le streaming et l'IPTV. Près de 200 000 personnes ont pu voir la rencontre du champion en titre sur Telegram, mais l'estimation ne s'arrête pas là, car le chiffre de 1 million de téléspectateurs illégaux est sorti ce week-end pour cette même rencontre. Une audience à faire pâlir DAZN pour des débuts. Nous n'avons pas encore les chiffres pour l'ensemble du week-end, mais il y a peu de chances qu'ils ne soient pas élevés. Alors ce n'est pas à DAZN qu'il faut en vouloir, car sur le peu que l'on a pu en voir, cela a l'air très intéressant, même si j'aimerais qu'ils n'oublient pas les anciens, car à trop vouloir rajeunir le produit, beaucoup vont fuir ou ne jamais revenir. Le problème, c'est le prix qui reste bloquant pour une majeure partie des Français. Les principaux fautifs sont la LFP et les clubs qui donnent l'impression de prendre pour des vaches à lait leurs supporters et leurs téléspectateurs. Ces derniers sont à bout de devoir changer de plateforme tous les deux ans, d'avoir des incertitudes jusqu'à 15 jours de la reprise sur la façon dont ils vont voir du foot à la télé. Alors bien évidemment, on nous sort l'argument « Oui, mais ailleurs c'est plus cher, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne. » Cet argument ne compte pas ou ne compte plus, car cela fait bien longtemps que le foot français ne boxe plus dans la même catégorie. En préambule, je vous ai parlé de l'industrie de la musique qui avait vu d'un mauvais œil l'arrivée de Spotify, Deezer et d'autres plateformes. Personne n'imaginait à l'époque payer pour écouter de la musique alors que l'on pouvait l'écouter en la téléchargeant. En 2022, plus de 15 millions de Français étaient abonnés à l'une de ces plateformes, et encore, ces dernières ont des accès non payants avec de la pub obligatoire. Est-ce vers ce format que la Ligue 1 doit aller, ou alors en étant autonome et en fixant le bon prix pour pouvoir retrouver un lien de confiance avec les supporters et les téléspectateurs, qu'ils soient, comment dire, à Annecy ou à Perpignan? Inspirons-nous de nos deux mastodontes du sport mondial, la NBA, avec le NBA League Pass, où pour 18€ minimum, vous avez accès au match, à la couverture en continu de NBA TV, et donc aussi des émissions, des reportages, des affichages statistiques pendant la rencontre. Il y a une offre premium aussi également, avec des anciens matchs mythiques, ou alors le multi-écran. La NFL, pour 17€, on a un accès avec tous les matchs de la saison, sous différents formats, et résumé de 5 ou 15 minutes, le match sans les arrêts de jeu, le match dans son intégralité. Voilà, le NFL Network en 7-7 avec 24-24, des reportages, des émissions, et bien évidemment des matchs mythiques. Il est donc l'heure pour la LFP de se réinventer, pour pouvoir essayer de sauver les derniers meubles qu'il reste, sinon l'huissier va venir sans état d'âme et n'hésitera pas à fermer la boutique.
Et oui, c'est vrai que le foot français est en grand danger. Merci Florian pour cette chronique qui, on va dire, n'est pas forcément optimiste, mais réaliste. Mais réaliste, ça, évidemment, on peut te l'accorder. Pour terminer sur le foot, avec notamment ce soir un match entre Lille et le Slavia Prague, c'est les barrages pour l'accès à la Ligue des Champions. On aura peut-être quatre clubs en Ligue des Champions si Lille parvient à passer ce barrage. Quatre clubs français, c'est vrai que je pense qu'on a presque jamais vu ça, je pense. On rappelle qu'il y aura un nouveau format avec 36 équipes et 8 matchs de poule pour chaque équipe.
C'est une première, on n'a jamais vu ça.
Exactement, c'est ça.
Parce qu'avant, il n'y avait que 3 équipes potentielles pour la Ligue 1, donc en Ligue des Champions. Quand il y en avait 3, c'était un exploit. Alors du coup, en avoir 4, ça serait incroyable.
Ce serait incroyable, et on rappelle, comme on le disait, avec cette nouvelle phase de Ligue, avec les 36 équipes qui vont se disputer un espèce de mini-championnat avant la phase finale. Bon, je vais me tourner maintenant vers Faustin. On va parler basket avec toi, Faustin. On reste un petit peu quand même dans l'esprit JO, avec l'équipe de France de basket masculine qui a permis de voir émerger un talent qu'on connaissait quand même déjà un petit peu, mais qui a vraiment s'est fait un nom parmi les cadres de l'équipe de France, c'est Gershon Yabusele. Et lui qui avait autrefois joué en NBA, il va peut-être y retourner.
Bah, c'est même sûr qu'il y retourne. Il a signé son contrat d'un an au Philadelphia Sixers pour 2,1 millions de dollars. Il y a clairement quelque chose à faire dans cette équipe où le poste 4 est un peu vacant. Alors j'ai imaginé le 5 majeur avec lequel pourraient démarrer les Sixers cette saison. Je mettrais Tyrese Maxey en meilleur de jeu, Paul George poste 2, Kelly Oubre poste 3, notre Gershon Yabusele National poste 4 et Joel Embiid poste 5. Là j'aurais un doute, ce serait sur Paul George et Kelly Oubre, mais c'est pas ici qu'est le sujet. Et voilà, après avoir joué avec les Boston Celtics en 2017, seulement une saison assez peu concluante, il a lui-même décidé de faire son retour. Il a lui-même annoncé vouloir retourner en NBA après de très bons JO ainsi qu'une très belle saison avec le Real de Madrid, que ce soit en championnat ou en Euroleague. C'est un talent qui se fait découvrir, j'ai envie de dire, par les Américains qui n'ont pas l'habitude de regarder le basket européen, qui préfèrent même le critiquer. Mais il y a clairement quelque chose à jouer pour Gershon Yabusele, qui peut trouver une place de titulaire indiscutable en NBA, et je pense qu'il a totalement sa place. Notez dans vos agendas les premiers rendez-vous. Le 24 décembre, pour Noël, on aura son premier match face à Victor Wembanyama. Et le 9 novembre, il reverra celui à qui il a fait vivre des cauchemars, LeBron James.
Et oui.
Qui en fait des cauchemars, je pense. Le poster, il le voit au-dessus de lui tous les soirs. Voilà pour ce qui est du cas de Gershon Yabusele.
Ouais, un cas plutôt intéressant effectivement, puisque voilà, ça va lui permettre ces Jeux Olympiques de retrouver un peu une carrière du côté des États-Unis.
C'est grâce à ça.
Oui.
C'est grâce à ces jeux extraordinaires que il peut se permettre de retourner en NBA. Maintenant, en plus, il aura un vrai rôle. Tu le disais, à Boston, c'est vrai qu'il n'était pas forcément ultra utilisé. Là, il y a peut-être une chance de le voir durer un peu plus longtemps. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que du bonus. Parce que même si la NBA s'arrête, pour lui, derrière, il aura toujours du taf en Europe.
Ouais, il y aura une place pour lui.
Il y aura une place pour lui. Et tu vois, et je pense que ce joueur un peu combattant, ça va plaire aux États-Unis aussi. Ça va. Il est dans
showman,
le combat.
Ouais.
Il est dans le showman. Ils vont adorer ça. Et c'est vrai que. Alors après, c'est sûr que c'est différentes règles par rapport à la FIBA, mais bon, ça c'est un autre débat. Et clairement, tu le disais, Faustin, je suis d'accord avec toi. Ils aiment bien critiquer le championnat européen, enfin les championnats européens, la NBA. Mais demain, tu les mets face au Pana ou à l'Olympiakos ou rien que le Real aussi. Je pense que tu les regardes droit dans les yeux.
Clairement, ouais.
Il y a match. Peut-être l'écart qui se rétrécit entre la NBA et la FIBA.
Ouais,
de plus en plus d'Européens.
Ouais, plus en plus, mais je sais pas vraiment. Ça reste deux règles. Les règles sont différentes et ça joue énormément.
Ouais. Ok.
Et après, t'as des joueurs NBA aussi qui vont après faire carrière aussi ils trouvent plus de contrat.
Ah oui, bien sûr.
NBA, ils viennent jouer en Europe, hein, et ça, ils apportent aussi quelque chose dans leur effectif. Ouais, donc, c'est vrai que c'est beau.
Les deux championnats se complètent.
Très bien. On va terminer avec deux autres infos. On va parler cyclisme maintenant avec la Vuelta qui a commencé, oui, après les fameuses deux épreuves de cyclisme sur route qui ont eu lieu lors de ces Jeux Olympiques. Le peloton est revenu du côté de l'Espagne et même du Portugal avec ce grand lancement à Lisbonne pour disputer la Vuelta. et se disputaient le maillot rouge. Hier, c'était Wout van Aert qui s'est imposé et il a d'ailleurs emporté ce maillot rouge. Et aujourd'hui, c'est Primoz Roglic qui s'est imposé, le Slovène, et qui s'est emparé du maillot rouge. Et à noter également, chez les filles, il y avait le Tour de France féminin qui s'est terminé la semaine dernière avec la victoire de Miedema, c'est ça ?
Ouais.
Exactement, sur 4 secondes
devant Demi Vollering, finale en apothéose à l'Alpe d'Huez. Je pense que ça fait deux Tours de France féminin où c'est vraiment le spectacle et ouais. C'est vraiment c'est condensé sur une semaine. Il y en a pour tout le monde, pour différentes étapes en plus. Donc c'est vraiment bien pour le vélo féminin et pour la Vuelta. En même temps, Roglic, c'est son objectif numéro un après sa chute pendant le Tour de France. Il a déjà remporté 3 fois la Vuelta dans sa carrière, donc il est en route pour marquer en tout cas l'histoire du Tour d'Espagne. Donc c'est plutôt bien pour lui.
Et puis un petit dernier mot également. On va vous parler de tennis avec il y avait quand même 2 Masters 1000. La semaine dernière avec celui de des garçons à Cincinnati, la victoire de l'Italien Yannick Sinner en finale contre Frances Tiafoe, l'Américain qui joue à domicile. Et puis chez les femmes, le WTA 1000 donc de Cincinnati, la même ville, remporté par Sabalenka en finale contre Pegula. Voilà pour les infos sportives. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, qui vous ont... C'est assez calme en ce moment, évidemment. Mais en tout cas, on vous donne rendez-vous, chers auditeurs, pour les Jeux Paralympiques qui vont commencer donc le 28 août. La semaine prochaine, le 27. Alors, personnellement, je serai pas là. J'espère que vous serez là, les gars, pour tenir l'antenne et sûrement vous parler justement de ces Jeux Paralympiques qui vont commencer et aussi toute l'actualité sportive dans sa globalité. Le 3 septembre, on aura cette émission assez spéciale qu'on prépare depuis un petit moment maintenant. Les 10 ans de l'émission sportive de Radio G. Ça fait 5 ans que Génération Sport a pris le relais surtout de Quoi Neuf dans le Dojo. Donc voilà, 10 ans de sport sur Radio G. On sera là avec les anciens chroniqueurs notamment de l'émission, Yann, Max, Cédric évidemment qui sera de retour. Et on reviendra sur ces longues années passées ensemble sur le 100.5 FM de Radio G. Donc soyez présents le 3 septembre et puis après les gars reprendront le flambeau pour la saison 2024-2025. On va tout de suite vous laisser en compagnie du reste des programmes sur Radio G avec le générique également et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine émission de Génération Sport.